Et c'est le retour du LEM en dehors de notre studio. Aujourd'hui, on est installé chez Céline Baye, qui est la gérante du bar des sports à Châteauneuf-du-Fou. On va parler avec un élu de la revitalisation de la ville. Et puis, on va en profiter aussi un peu pour faire venir des associations de culture locale.
LEM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec Davy dans le LEM du vendredi. Je vous souhaite une très bonne année et surtout une excellente santé. Nous sommes donc en direct sur le 100.4 FM depuis le bar des sports de Céline Baye à Châteauneuf-du-Fou. Une émission que vous pourrez écouter ce soir en rediffusion à 18h et puis aussi pour l'éternité sur Internet. Sur le site de la radio à transistor.bzh. Alors le plateau de communes, c'est un moment radiophonique où nous donnons la parole aux élus des communes du territoire, et ce, peu importe sa taille ou sa couleur politique. Ce sont vos élus qui choisissent le sujet qu'on va aborder, et ce qui est étonnant, c'est que pour le moment, 100% des communes que nous avons visitées ont tous le même objectif, apporter de la vie dans la commune. Et Châteauneuf-du-Fou n'échappe pas à cette règle. Alors aujourd'hui, c'est Hugues Duhal-Brabant, le maire de Châteauneuf-du-Fou, que l'on reçoit en plateau. Bonjour monsieur Brabant.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va plutôt bien ce matin.
Ouais, malgré le froid et la pluie. Bon, on va parler avec vous des projets de revitalisation de votre commune, mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre commune?
Oui, brièvement. Alors Châteauneuf-du-Fou, c'est une commune de 3700 habitants. Qui occupe le rôle de centralité sur le territoire de la Haute-Cornouaille. La Haute-Cornouaille, c'est 15 communes, 15 000 habitants, et Châteauneuf, c'est la commune centre, 3700 habitants.
C'est la plus grosse ville.
C'est la plus grosse commune sur le territoire de la Haute-Cornouaille. On a 2200 emplois, on a un peu plus de 700 élèves scolarisés sur les différents établissements scolaires.
Ouais. Deux collèges, une école, hein,
deux collèges, deux écoles.
Deux collèges, deux écoles, ouais. Ouais, c'est quand même pas mal.
C'est plutôt bien, ouais. Ça fait de la jeunesse.
Ouais, puis c'est traversé aussi par une rivière.
Alors la commune est traversée par le canal de Nantes à Brest. Il y a 7 communes du territoire qui sont traversées. Donc là, il y a un gros enjeu touristique. C'est partagé évidemment par la région Bretagne qui travaille aussi sur le retour de la navigation sur la portion finistérienne. C'est déjà le cas sur la partie costa-armoricaine. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de profiter aussi de ce développement touristique à la fois sur l'eau, puisque c'est le retour de la navigation qui est visée quand même, mais pas que, puisqu'on a une forte fréquentation à la fois des piétons, mais aussi des cyclistes sur le halage.
Ouais, et puis il y a le château de Trévarez.
Et puis il y a le château de Trévarez, c'est 4,5
km. Ouais, c'est juste à côté, c'est pas sur notre commune. C'est dommage.
C'est pas sur notre commune, mais peu importe, c'est sur le territoire. Ouais. Et l'objectif, il est vraiment qu'on profite les uns les autres des attraits touristiques, culturels. On évoque là le château, mais il y a un projet de musée aussi à Châteauneuf qu'on abordera peut-être si on a le temps. Tout à fait.
Ouais. Comment on appelle les habitants de la ville?
Les Châteauneuviennes et les Châteauneuviens.
Les Châteauneuviennes et Châteauneuviens. D'accord. Alors, la revitalisation de la ville, c'était un objectif de votre mandat, c'est ça?
En tout cas, on est labellisé Petite Ville de Demain depuis 2021. Donc ça, c'était un enjeu national qui était porté par le gouvernement. Donc c'est 1600 communes qui sont labellisées Petite Ville de Demain à l'échelle nationale.
Oui, il y en a partout. J'ai regardé sur le site du gouvernement, il y en a vraiment partout.
Effectivement, on les retrouve partout. Alors, elles sont pas aussi belles que Châteauneuf, c'est évident.
C'est sûr.
Mais non, effectivement, il y en a partout, avec de réels enjeux, notamment sur les financements qui a trait au développement des projets. Il y a une attention particulière qui est portée quand même par les services de l'État, mais c'est le cas également par nos financeurs et partenaires tels que le conseil départemental du Finistère ou encore la région Bretagne.
Ouais. Alors qu'est-ce qui vous a poussé justement à mener cette politique ?
Aujourd'hui, on fait le constat, il y a les enjeux, les évolutions sociétales, évidemment, qui sont à prendre en compte. C'est aussi, il y a des époques où des zones se sont développées en périphérie des communes. Parfois, invitant du coup les commerçants à délaisser un peu les centres-villes.
Ouais. Alors,
et les commerçants, évidemment, derrière les consommateurs. Donc on se retrouve aujourd'hui à se demander, mais qui se promène à Châteauneuf? Pourquoi les rues sont désertes? Donc là, clairement, aujourd'hui, il y a une politique qui vise vraiment à la revitalisation revitalisation du centre-ville. Donc ça vise à la... Il y a un périmètre qui a été défini, on appelle ça l'ORT, c'est l'opération de revitalisation du territoire.
Ouais.
Donc il y a un périmètre d'ORT qui est défini. Il vise essentiellement le centre-ville de Châteauneuf. Et l'objectif, c'est de venir y ramener à la fois du logement, mais de l'activité, du commerce, évidemment, de l'artisanat. Donc ça, c'est des choses qui avancent plutôt bien. Aujourd'hui, on est à peu près environ 14 ou 15 artisans commerçants qui se sont installés ou qui ont repris une affaire. Donc c'est quand même plutôt positif.
Ouais, mais c'est pas facile à trouver ça, 14 commerçants.
Non, c'est sûr, mais il y a aujourd'hui des métiers qui avaient disparu des centres-bourgs ou centres-villes sur les territoires ruraux. Je pense notamment au retour d'une cordonnière.
Ouais.
Ça a peut-être existé, moi j'en ai pas souvenir, mais une tatoueuse qui s'est installée aussi à Châteauneuf. Et puis c'est la reprise de la boucherie. J'évoquais tout à l'heure le fait que les commerces avaient eu tendance sur certaines décennies à quitter les centres-villes. Là, il y a quand même un aspect qui est pas négligeable. Il était là tout à l'heure. On a un boulanger qui s'est installé dans le centre-ville. Il n'y en avait plus. Ils étaient,
c'est vrai,
les deux boulangeries étaient en périphérie. Donc évidemment que là, on sait le flux de passage que ça génère.
Ouais.
Si elles ne sont plus là, c'est compliqué pour les voisins. Quoi. Mmh. Donc là, en l'occurrence, la boulangerie, elle est revenue. La boucherie, elle est reprise depuis maintenant quelques années. Et ça fonctionne plutôt bien. Évidemment, tout ça, cette proximité, cette centralité, elle profite au tissu local, au maillage en fait,
ouais,
qui se construit petit à petit. Quoi.
Au niveau du flux démographique, comment on est à Châteauneuf-du-Fous? Est-ce qu'on a des gens qui... Donc les gens qui partent? Est-ce qu'on a plus de gens qui partent que de gens qui rentrent dans Châteauneuf-du-Fous, qui s'installent ici? Est-ce qu'on a plus de natalité que de mortalité? Comment ça se passe?
Ce qu'il faut noter, c'est qu'on a, on a une démographie qui tend à se stabiliser. Ça a été plutôt sur une phase descendante depuis plusieurs années. Hein. En cause, c'est le vieillissement de la population, très clairement, qui est présent sur nos territoires. C'est le manque d'accès à la formation, aussi sur nos territoires, qui fait que les jeunes sont invités à s'expatrier, à aller un peu plus loin.
Pourquoi ? À cause de quoi ?
Pour avoir accès aux études, pour avoir accès
à du travail
potentiellement.
Ouais.
Donc ça, c'est des choses qui sont constatées. Mais pour autant, aujourd'hui, on a une stabilisation de la démographie. C'était le cas encore, c'est de plus en plus probant, notamment sur la période 2019-2022, où on a là une augmentation qui est constatée sur le territoire de la Haute-Cornouaille. Je crois que c'est plus 53 habitants qui sont constatés. Donc c'est pas anodin. Et ça témoigne aussi de la politique qui est en place aujourd'hui, notamment sur la production de logements. On évoquait tout à l'heure les commerces. Je veux dire, s'il n'y a pas de commerce, l'habitant, il n'y voit pas non plus un cadre de vie. Donc c'est vraiment un tout. Quoi.
C'est vraiment un tout, ouais. Et donc, dans les logements, on entend partout qu'on a une crise de logement, notamment sur tout ce qui est ville côtière. J'ai envie de parler de Crozon, j'ai envie de parler de Douarnenez, je les cite un peu comme ça au hasard, mais j'imagine que c'est un peu le cas. Ici, on n'est pas du tout sur une ville côtière, on est vraiment au centre. On est sur... Alors ça, c'est vous qui me l'avez dit, c'est un des territoires les plus pauvres. Alors c'est du Finistère ? C'est...
À l'échelle du Pays Cob, en tout cas, on a un revenu médian aujourd'hui, donc c'est 5 EPCI. Le territoire du Pays Cob, effectivement, est un territoire rural. Il est à cheval sur 3 départements, le Finistère, le département du Morbihan et des Côtes d'Armor. Et effectivement, on a un territoire qui fait partie des plus pauvres à l'échelle régionale, avec un revenu médian à 1600 euros pour ce qui concerne la Haute-Cornouaille.
Ouais. Alors comment se fait-il qu'on arrive à avoir une crise du logement, même si on n'a pas un attrait touristique ou c'est à cause de quoi ?
Il y a tout ça. Il y a l'attrait touristique, il y a l'attrait de l'emploi, et puis aujourd'hui il y a des réalités, ce sont notamment la crise du logement. Alors elle est nationale, cette crise du logement, hein, mais on ne peut pas la codifier uniquement qu'au secteur côtier. Sur les secteurs ruraux, il y a de vraies problématiques, on le constate ici à Châteauneuf. Il y a des constructions qui nécessitent d'être là. Pourquoi ? Pour faciliter le recrutement des entreprises locales. J'évoquais tout à l'heure 3700 habitants, ce sont aussi 2200 emplois à la simple échelle de Châteauneuf. Donc c'est pas anodin, ça fait plus d'un emploi par habitant, enfin c'est pas ça, mais ça fait 2200 emplois, c'est vraiment pas anodin sur le territoire.
Ouais, c'est beaucoup.
Et évidemment que ces entreprises nécessitent de recruter, et ça passe par la possibilité de créer du logement. Donc là aujourd'hui c'est le cas, les bailleurs publics s'engagent, c'est notamment le cas avec Finistère Habitat, l'OPAC et d'autres bailleurs qui s'intéressent aujourd'hui au territoire. C'est le cas aussi avec des promoteurs privés qu'on réussit à convaincre de l'intérêt de construire ici sur le territoire. C'est des opérations rénovation, voilà, de 36 maisons individuelles notamment qui sont en cours. Il y a d'autres sujets sur cette thématique.
C'est des discussions que vous avez eues avec les entrepreneurs locaux, ceux qui ont. Alors je pense à vous m'aviez donné des noms comme Guyader, vous m'avez donné une entreprise de conserverie.
Bigard, Socopa, Secret de Famille, Guyader, et j'en passe notamment sur la métallurgie également.
Ils vous ont signalé ces problèmes-là qu'ils n'arrivaient pas à recruter parce qu'il n'y a pas de logement.
Le secteur économique aujourd'hui, il fait le même constat, il est partagé. Ce constat, c'est qu'il y a un manque crucial de logement. Il y a un manque crucial de logement et il est vraiment nécessaire qu'on axe là-dessus rapidement. Il y a une production de logement qui est urgente.
Alors pourtant, il y a un truc qui s'appelle le SRU, c'est la loi de solidarité ou renouvellement urbain, j'ai noté. Alors, manifestement, vous dites qu'il y a des limites et c'est pas suffisant. Pourquoi ?
Qu'il y a des limites ?
Ouais. C'est un peu limite comme truc. Ça correspond pas franchement à vos besoins, à vous, quoi.
Aujourd'hui, la nécessité de construire. Alors, aujourd'hui, il y a des constructions qui se font. On est contraint par notamment le PLU, par exemple, le plan local d'urbanisme.
Ça, vous l'avez revu.
Alors, il est en cours de révision et on doit évidemment prendre en compte aussi les évolutions nationales. Ça passe notamment par la loi climat et résilience, le ZAN, donc c'est le zéro artificialisation nette. Alors, pour vulgariser un peu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que une collectivité a consommé tant d'hectares sur les 10 dernières années. Ouais. Elle va devoir en consommer la moitié sur les 20 prochaines années. Donc ça veut dire qu'est-ce que ça tend ? On vient vraiment nous obliger à construire en centralité et à limiter la consommation foncière. Ce qui est une bonne chose, ce qui permettra aussi au développement agricole de perdurer.
Ouais, et puis de pas trop entamer des parts d'habitants, j'ai envie de dire, sur les communes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est ce que vous m'avez dit aussi, Châteauneuf-du-Fou, il nourrissait entre guillemets 17 communes autour. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour travailler, il y a beaucoup de gens qui...
2200 emplois, la notion de service, de commerce, qui est présente également. Évidemment
de santé aussi, parce que...
De santé,
ouais, vous m'avez
évidemment
parlé
d'un pôle. Les habitants des communes voisines en profitent également.
Ouais, ouais, mais le but, c'est pas non plus de gratter du territoire jusqu'à aller choper les communes voisines, c'est pas le but. Il faut que chaque commune garde
pas
son
du
intégralité.
Il y a une politique volontariste aujourd'hui sur le territoire qui est justement et qui vise au maintien des services et des commerces sur chacune des communes. Aujourd'hui, sur le territoire de la Haute-Cornouaille, toutes les communes sont dotées à minima d'un commerce. Ouais. Donc, c'est pas neutre aujourd'hui.
Bon, on
sait qu'il y a 62% quand même à l'échelle nationale des communes qui n'ont pas de commerce. Ici, sur le territoire de la Haute-Cornouaille, c'est l'inverse. Elles ont toutes au moins un commerce.
Tout au moins un commerce, oui. Donc il y a toutes ces raisons, voilà, toutes les raisons qu'il faut pour pouvoir les préserver. Bon, on comprend que c'est pas simple. Là, on a vraiment dressé un portrait très rapide. On comprend que c'est pas simple, que c'est un petit peu le coup du serpent qui se mord la queue. Vous avez commencé par quoi ? Par quoi on peut commencer pour essayer de désengorger cette situation ?
Il y a plusieurs pans qui sont liés à la revitalisation. On évoquait l'aspect du logement. Donc là, clairement, il y a des choses qui sont engagées aujourd'hui. On est plutôt sur de la production de logements nouveaux. Donc ça veut dire qu'on va grignoter du foncier pour produire du logement rapidement. C'est de la maison individuelle. Ce sera potentiellement demain du petit logement sur des petits collectifs. Mais il y a aussi la nécessité, et on le voit de plus en plus, si on parle de revitalisation, il faut qu'on pense la transformation du bâti existant.
Ouais, plus que de l'étalage sur...
Si on veut que les habitants soient en centralité, aient accès au commerce de façon très simple, c'est-à-dire on va se déplacer à pied. On a aujourd'hui des problématiques qui sont liées aux personnes âgées qui vivent sur des villages excentrés, dans des maisons de 5-6 chambres qu'on ne parvient plus à chauffer parce qu'on est tout seul à y vivre. Ouais. Donc ces gens-là, il faut qu'on parvienne à les faire venir en centralité, qu'elles aient accès à pied au commerce, aux produits de première nécessité. Et puis derrière, ça va aussi libérer du logement. Et comment on transforme ce logement, on le requalifie. Et ben là, je pense qu'il y a un rôle à jouer des collectivités. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on vienne aider le particulier, qu'on vienne aider le bailleur potentiellement sur la requalification du bâti existant.
Quoi. Mais comment vous faites ça ? Comment est-ce qu'on...
Aujourd'hui, il suffit de regarder ce que ça peut représenter comme charge financière un lotissement. Si on produit une commune qui fait un lotissement aujourd'hui, donc c'est-à-dire que la commune elle achète un champ. Voilà, sur lequel il n'y a rien. On achète un champ, il va falloir y amener les réseaux, donc c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est les télécoms. Une fois qu'on a fait ça, il va falloir faire ce qu'on appelle des lots. Donc le lot, c'est le terrain que demain l'habitant va acheter pour y faire sa maison. Donc on va y faire 5, 6, 7 lots. On va y mettre de l'éclairage public, parce qu'il va falloir sécuriser un peu aussi l'aménagement.
Des places de parking.
Des places de parking, une voie de circulation. Et bien quand on a fait ça, qu'on a revendu le lot à des montants de 35, aujourd'hui on est arrivé à 42 euros le mètre carré de terrain, quand la commune revend le terrain, eh ben, il y a un reste à charge. Et ce reste à charge, il n'est pas anodin. Ça va entre 8 et 15 000 euros par lot qui reste à charge de la collectivité.
Donc, ah ouais.
On voit la politique volontariste quand même de la commune d'accueillir de nouveaux habitants qui puissent construire. Donc c'est aussi une volonté de le faire. Mais on voit aujourd'hui, et face au zéro artificialisation net notamment, la nécessité de repenser l'orientation de ces budgets. Mmh. Et ça passe par la requalification du bâti, justement en centralité, qui devrait aussi permettre de redonner un autre visage à nos communes.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on ait je me suis posé la question, un risque de flux intérieur en fait? Est-ce que des gens qui habitent à Châteauneuf-du-Fou, qui ont un logement un peu juste, j'ai envie de dire, bah se dit bah tiens, ils sont en train de construire des nouveaux habitats, je vais aller dedans plutôt que d'attirer justement des gens de l'extérieur.
Non mais y a c'est le parcours résidentiel en fait. On s'installe, on est tout, ouais, seul, et puis on est deux, voilà, on rencontre son ou sa moitié, et puis il y aura potentiellement des enfants demain,
ouais,
et ensuite le parcours de la vie fait qu'on se retrouve seul avant potentiellement de rentrer en établissement. Donc il y a vraiment un parcours résidentiel, et aujourd'hui ça évolue. Hier effectivement on achetait sa maison, on y restait jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui c'est plus le cas, on voit la nécessité de changer de logement de façon régulière. On voit aussi la problématique, en tout cas le constat qu'on peut faire suite au desserrement des ménages. Donc le desserrement des ménages, c'est un terme qu'on entend de plus en plus, c'est quand un couple se sépare. Alors un couple qui habitait une maison, qui a deux enfants, ouais, il y avait trois chambres, formidable, ça répondait pleinement à la taille du foyer, sauf que quand le couple sépare, et le papa et la maman vont avoir besoin de deux chambres quand même pour accueillir les enfants. Donc c'est vraiment de repenser le logement et la façon dont on vit. Mais non, c'est pas un frein. Il faut qu'on refasse le bâti existant. Ça permettra d'accueillir des jeunes, des personnes seules, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, hein, potentiellement des personnes âgées aussi. Et puis sur l'extérieur, on aura la possibilité d'accueillir de nouvelles familles lorsqu'elles arriveront.
Mais est-ce qu'on arrive à évaluer tout ça en fait? Parce que ça me paraît très compliqué. On dit d'accord, on va faire du logement. Ok, très bien. Mais comment on arrive à savoir, il faut anticiper justement des personnes qui viendraient à se séparer,
on a des éléments chiffrés aujourd'hui, notamment sur la demande de logement. Aujourd'hui, quand on regarde si on analyse un peu les différents logements, les demandes de logements publics qu'on peut avoir sur le territoire, c'est conséquent. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie l'intérêt à la fois des bailleurs, mais aussi des promoteurs privés. Sur Châteauneuf, ce sont 75 demandes en priorité 1. Donc, c'est-à-dire qu'un couple qui va souhaiter avoir un logement public, donc Finistère Habitat, Espacil, Opac et j'en passe, va faire une demande, donc il va remplir un dossier. Et il va avoir la possibilité de compléter donc une priorité 1, sur quelle commune il souhaite s'installer, une priorité 2, une priorité 3. Et aujourd'hui, nous, sur Châteauneuf, c'est 75-80 demandes qu'on peut avoir en priorité 1. Et si on totalise les priorités 2 et priorité 3, on a à peu près 180 dossiers de demandes de logement qui sont en attente.
Je me rends pas compte, c'est beaucoup ?
C'est conséquent, ça fait autant de logements qui ne sont pas disponibles aujourd'hui sur le territoire.
Ok. Et alors du coup il y a cet aspect là, il y a une histoire de, comment on appelle ça, requalification urbaine, j'ai cru voir ça, qui était possible. C'est quoi, ça veut dire quoi?
Alors il y a plusieurs choses quand on parle de requalification. Ça va être sur les axes de circulation structurants de la commune. On s'était engagé effectivement dans le cadre de la campagne municipale en 2020 à reprendre ces axes structurants. Ça a été le cas sur la rue Jean-Marie Birien, donc c'est une départementale sur la commune, donc elle a été reprise, donc l'ensemble de la voie a été requalifiée. On repense les trottoirs, on les élargit, on facilite aussi la circulation des PMR, des poussettes et des piétons tout simplement. Et là ce sera le cas demain sur une autre rue qui la rue Paul Sérusier, qui est l'entrée de la commune à l'est.
D'accord. Bon, alors, admettons que, bon, ça y est, on arrive, on a des nouveaux habitants, la ville se repeuple, donc j'imagine qu'il va falloir créer de nouvelles choses aussi à l'intérieur, parce qu'il va bien falloir aussi les conserver, ces gens-là. C'est aussi essayer de conserver une certaine jeunesse pour qu'ils restent le plus longtemps possible, c'est aussi le but. Ça, c'est pareil, comment on fait ça? Puis on commence par dynamiser quoi?
Ben, ça passe par les différents équipements qu'on va pouvoir proposer. Alors ça passe par les aires de jeu qui vont être disponibles pour les plus jeunes, et puis des skateparks, des pump parks. Voilà, c'est des choses qu'on
c'est
a.
C'est quoi ça, un pump park?
Alors pump park, c'est une aire bitumée avec des bosses là, qui permet aux plus jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs. Ouais. Hein, on voit tout type de génération s'y adonner là, mais avec trottinette, vélo,
skateboard,
roller, enfin voilà, de pouvoir pratiquer ces fameuses bosses.
Vous avez jamais essayé?
Si, bien sûr, j'ai essayé.
C'est super sympa comme truc. Et donc j'imagine il va aussi falloir prévoir un petit peu de rénovation pour les écoles. Est-ce que savoir si les écoles sont capables d'accueillir du public supplémentaire, j'imagine.
Ouais, alors là, ce sont des sujets comme sur l'aspect des écoles, parce que on évoquait la démographie tout à l'heure. On voit bien quand même qu'à l'échelle nationale, il y a de moins en moins d'enfants qui sont faits par foyer. Donc là, il y a quand même de vrais sujets. Il faut effectivement prendre en compte l'actuel, ce qu'on constate aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'il faut réadapter parfois des espaces, notamment voilà, on vient de le faire là sur la garderie aujourd'hui, où on réaménage un peu les espaces, on permet la différenciation des classes d'âge et leur faciliter la vie aussi, puis leur accueil au sein de l'école. On va refaire la préau par exemple là aussi sur l'école, qui permettra aux enfants d'avoir un cadre plutôt agréable au sein de l'école, revoir la restauration sur une école dont on a cette gestion aussi de restauration. Ouais. Et ça passe aussi par la rénovation énergétique, la rénovation thermique de ces équipements. Il faut vraiment qu'on maintienne le bâti existant.
Ça, c'est important.
Ben c'est important parce que on voit aujourd'hui l'augmentation tarifaire énergétique. C'est des budgets colossaux et comment on contre ça? C'est évidemment alors à la fois par la production d'énergie renouvelable, qu'on intègre de plus en plus sur les projets. Ça va être des panneaux solaires, ça va être de l'éolien, ça va être et j'en passe. Là, il y a des réflexions vraiment plus larges qui sont menées sur le territoire, à la fois sur le solaire, la méthanisation, l'éolien. Donc ça, ce sont des sujets d'actualité. Et puis on va aussi venir requalifier le bâti existant pour réduire justement la facture énergétique, les perdition de chaleur. Donc on vient isoler en dessous, au-dessus, et puis les murs périphériques, et potentiellement penser de nouveaux modes de chauffage aussi.
Puis d'éclairage, je pense à l'éclairage public.
Ouais, l'éclairage public, là aussi on a des parcs qui sont vraiment conséquents. C'est à peu près 800 mâts d'éclairage qui sont présents sur la commune. C'est 35 armoires électriques pour les piloter, et tout ça implique d'être revu, d'être mis aux normes, et c'est des budgets qui sont importants. On s'inscrit dans un plan avec le syndicat d'énergie, et cette année en 2025, c'est à peu près 600 000 euros qui vont être investis, donc la moitié à la charge de la collectivité, l'autre moitié portée par le syndicat, mais qui va nous permettre de revoir les choses, de passer au LED, donc ça va aussi être une réduction financière derrière des factures.
Ouais. Alors on parle de préserver un petit peu l'habitat, on a parlé un petit peu du musée, c'est le moment, on va en parler du musée. Donc ça c'est un beau projet, c'est pas tous les jours qu'on ouvre un musée.
Non, c'est vraiment un beau projet qui est porté de longue date par la collectivité. Il s'appuie en fait sur la présence de Paul Sérusier et de son épouse à partir de 1893 ici sur la commune. Ils y construisent leur maison en 1906. Et puis voilà, donc il va reprendre vraiment énormément de paysages châteauneuviens et du territoire là jusqu'à sa mort en 1927. Donc il y a toute une histoire sur Sérusier. Le premier tableau qui est offert à la collectivité, c'est un de mes prédécesseurs, c'est Georges Lemeur. C'est en 1978, donc ça date, c'était pas hier. Moi j'étais pas né, j'avais encore moins 7 ans, je pense, à peu près.
Moins 1.
Moins 1.
Ouais, moins 1.
Et voilà, et donc les donations vont se succéder. Il y a des politiques d'acquisition qui vont se mettre en place aussi pour acquérir de nouveaux tableaux. Et donc là aujourd'hui, effectivement, c'était un projet qui était sur les rails. Et nous, on le voyait vraiment comme le point de départ de la revitalisation.
Ouais.
Donc c'est un projet qui se situe en cœur de ville. On vient reprendre deux bâtiments existants, deux bâtisses anciennes en plein cœur de ville. Donc ça va permettre d'avoir un équipement de 570 mètres carrés, 280 mètres carrés d'exposition. Exposition permanente, mais aussi exposition temporaire, parce qu'on veut vraiment que ce soit un lieu vivant, un lieu culturel qui vive, d'abord autour de la peinture et du couple Sérusier, mais pas que, il s'y passera énormément de choses, des activités, des ateliers. Au-delà de la peinture, même, il faut vraiment que ce soit un lieu qui vive et qui soit un accès à la culture de façon très large pour la population. On évoquait les jeunes tout à l'heure, mais pas que, évidemment.
Oui.
On est en milieu rural et l'accès à la culture, il est parfois éloigné. Et il y a des ponts qui sont à créer, à la fois avec le musée de Pont-Aven, le Pouldu, le Faouet aussi. Et puis, au-delà de l'art, on pense aussi évidemment au château de Trévarès qu'on évoquait tout à l'heure, qui est à 4 km de Châteauneuf. Donc il y a évidemment des passerelles qui sont à créer, mais toujours pour favoriser cet accès à la culture, à la population.
Et puis il y a le canal.
Et il y a le canal de Nantes-Brest, qui est une vraie richesse.
Oui,
je connais particulièrement bien, mon papa y travaillait toute sa carrière, mais en tout cas sur le canal de Nantes-Brest, voilà, on a une portion finistérienne, donc je le disais tout à l'heure, qui traverse 7 communes du territoire. Et là, il y a de gros enjeux touristiques. On voit aujourd'hui, donc j'évoquais le retour de la navigation par la région, et c'est le contrat de canal qui vient lier la région Bretagne et les communes et potentiellement le PCI sur des politiques de volontarisme de développement d'activités. Donc on va venir aménager avec des portes vélos, des recharges, des vidanges pour les bateaux qui seront présents demain sur le canal. Donc tout ça, c'est là.
Bah c'est bien beau tout ça, mais j'ai envie de vous poser la question, comment ça se finance ? Parce que
ça coûte horriblement cher. Alors, oui. Comment ça se finance? Il y a différentes sources de financement. Il y en a qui sont plus simples à exposer, d'autres qui sont plus dures à défendre. Je pense notamment aux hausses d'imposition. On y a procédé l'année dernière. Il n'y en aura pas d'autres sur ce mandat aujourd'hui. Mais effectivement, ça passe par là, la hausse de l'imposition. Si on veut des projets, si on veut offrir un cadre de vie, ça passe par de nouveaux équipements qu'il faut financer, et l'imposition est un moyen. C'est évidemment pas le seul. Ça passe aussi par le soutien des financeurs. J'évoquais tout à l'heure le conseil départemental du Finistère. Le musée Sérusier, c'est un soutien à hauteur de 400 000 euros. Donc ce sont des montants qui sont importants aussi pour en termes de soutien de ces financeurs. La région Bretagne, c'est un peu plus de 250 000 euros. Et puis j'en passe. Il y a aussi les fonds européens.
Ouais, le fameux dispositif Petite Ville de Demain, j'imagine que ça vous a aidé.
Alors, Petite Ville de Demain, vraiment, il offre aussi un regard et une attention particulière des services de l'État. Ça a été le cas notamment sur les dotations, les diverses dotations, que ce soit la DSIL, la DETR. Bon, ça, ce sont les intitulés des différents modes de subvention. Mais évidemment que le soutien de l'État, d'ailleurs, à hauteur de 400 000 euros aussi, est d'une importance cruciale sur ce projet. Et puis, le pacte Finistère 2030, là, dont on entend d'ailleurs parler actuellement, est aussi une forme de soutien du département à la fois sur le volet 1. Donc le volet 1, ce sont des projets, on évoquait tout à l'heure le Pump Park, voilà, typiquement, c'est ce qui est venu financer le département. Et puis il y a le volet 2 et le volet 3 qui sont sur des projets d'intérêt communautaire, voire régionaux et nationaux. Et c'est dans ce cadre-là qu'est soutenu notamment le projet de musée, ouais. Sérusier.
J'ai une dernière question. Est-ce que c'est casse-gueule de revitaliser une ville ?
Non, mais de toute façon, aujourd'hui, voilà, le rôle d'élu, je veux dire, dès lors qu'on appuie sur un bouton, qu'on lance quelque chose, évidemment que ça implique des positions qui sont largement défendables, c'est tout ce que ça suscite en fait, c'est la vie de la collectivité. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, et faut essayer de traduire tout ça dans les différentes actions qu'on peut mener, en tenant compte des arguments de chacun, et c'est ce qui fait la force d'une collectivité, qui fait la force d'un projet aussi, et qui au bout du bout, il est sûrement un peu différent de ce qu'il avait été dessiné au départ, quoi.
D'accord. Merci beaucoup, Tuc Dual Brabant, d'avoir participé à l'émission.
Merci à vous. Bonne journée.
Bon, on va rester un petit peu à Châteauneuf-du-Fou avec des associations locales. On va parler jazz, danse bretonne et tango argentin. Il va y avoir du swing dans la seconde partie de l'émission. Alors restez avec nous. Ou rejoignez-nous chez Céline au bar des sports de Châteauneuf-du-Fou. On est en direct là-bas sur le 100.4 FM de Transistor et jusqu'à 13h. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi cut them. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi cut them. Can't you see it? Can't you feel it? It's all in the air. I can't stand the pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. The hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat cross my path. I think every day is gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine. We're all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. We even stopped believing in prayer. Don't tell me, I tell you. Me and my people just about do.
I've been there, so I know. Keep on saying, go slow. But that's just the trouble.
Too slow.
Washing the windows.
Too slow.
Picking the cotton.
Too slow.
You're just plain rotten.
Too slow.
You're too damn lazy.
Too slow.
The thinking's crazy. Where am I going? What am I doing? I don't know. I don't know. Just try and do your very best. Stand up, be counted with all the rest. For everybody knows about Mississippi cotton. I mean, you thought I was kidding.
Picket lines.
Picket lines, school boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people and me. Yeah, she lied to me all these years. You tell me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. You'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this old country's full of lies. You're all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. Keep on saying, go slow.
Go slow.
Go slow. That's just the trouble.
Do it slow.
Desegregation.
Do it slow.
Mass participation.
Do it slow.
Reunification.
Do it slow.
Do things gradually.
Do it slow.
But bring more tragedy. Why don't you see? Why don't you feel it? I don't know, I don't know. You don't have to live next to me. Just give me my equality. Everybody knows about Mississippi. Everybody knows about Alabama. Everybody knows about Mississippi. Goddamn. That's it.
Et on vient d'écouter la reprise de Mississippi Goddamn de Karine Gyok-Turam qui est programmée à l'édition 2025 de Fest Jazz, on va en reparler tout à l'heure. Alors à l'origine, c'était un morceau de Nina Simone et en fait cette reprise est extraite d'un album que Karine Gyok-Turam a entièrement consacré à la chanteuse américaine. Alors pour la petite histoire, c'est un morceau que Simone a écrit en 1964 à la suite de l'attentat raciste qui a causé la mort du défenseur des droits de l'homme Medgar Wiley Evers l'année précédente. C'est aussi un morceau qui a été censuré à sa sortie puisque son titre Mississippi Goddamn contient un blasphème. En effet, Goddamn veut dire bon Dieu, mais aussi putain. Et puis, David, je te laisse la parole.
Bah, merci beaucoup, Camille, pour ces précisions. Bon, c'est parti pour la seconde partie du LEM. Sur Transistor, depuis Châteauneuf-du-Fouille, on retrouve maintenant nos invités. Seconde partie du LEM, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On est en plateau depuis le bar des sports de Châteauneuf-du-Fouille avec une vieille toux qui est très ennuyante. On va parler avec les gens qui font la vie associative de la commune. Alors on va avoir tout à l'heure Jazz Crèze Braise, on va aussi avoir Uno Tango pour faire remuer nos popotins. Mais là tout de suite maintenant, on va accueillir, alors je change parce qu'on a changé tout le programme, c'est Sylvie Laridon avec une association de danse bretonne. Alors vous me pardonnerez mais je vais essayer de bien le prononcer. C'est Danserienne Art Castel Neves. Je suis bien ou pas?
C'est cela.
Je suis nul en breton, moi j'y connais rien du tout.
Danserienne à Rastelneve. Neve.
Je peux le dire comme je l'ai dit, c'est bon?
Oui, ça ira.
C'est acceptable, okay, merci. Bon, c'est, bah, comment ça va?
Bah, moi je vais bien, j'arrive directement du travail, donc voilà, ça va très bien.
Voilà, c'est pour ça que vous êtes passé avant Trevor, normalement vous n'étiez pas...
Voilà, je suis désolée.
C'est pas grave. Bon, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre association?
Alors, les danseriennes à Rastelneve, donc l'association a débuté officiellement en 1999. Donc, nous avons fêté les 25 ans en 2024.
Bon anniversaire.
Voilà, merci. Après, officieusement, ça avait démarré un petit peu avant, mais peut-être 5 ans avant, quelque chose comme ça. Mais bon, officiellement, c'est 99. Et donc, nous sommes une association de danse bretonne. À l'origine, c'était que de la danse bretonne et ça a évolué depuis quelque temps. Nous faisons aussi du breton. Donc nous ouvrons à la culture bretonne.
D'accord.
Voilà.
Combien d'adhérents ?
Alors l'année dernière nous étions 87 et cette année 135.
Waouh.
C'est oui.
C'est
oui.
Énorme.
Bah oui, c'est super. Alors il y a plein de nouveautés, il y a plein de choses. C'est
principalement de la danse, quand même.
De la danse et du breton.
Et du breton, ouais. Voilà. Vous faites les deux en même temps. Moi, j'y connais rien du tout en danse bretonne. Il y a plusieurs danses qui existent.
Ah bah oui, évidemment.
Combien il y en a? On sait combien il y en a?
Non, alors là, je vous avoue, le nombre, je ne sais pas. C'est très, très varié, des différents terroirs de Bretagne. Ouais. Donc, ça va jusqu'au terroir de Rennes et les alentours. Donc, pays de Gallo, pays Brocerné, pays... Enfin, il y en a plein, c'est divers et varié. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a énormément de danse.
Ouais, alors moi j'imagine hein, quand on danse un slow, c'est pour de la musique douce. Quand c'est du métal, on se secoue un peu, on fait un petit peu de pogo. Mais quand c'est de la musique bretonne, comment on sait quelle danse danser en fait?
Alors souvent ça s'entend à la musique, ça s'entend en fonction des musiciens. On les connaît, on sait d'où ils viennent, des chanteurs, et donc on connaît les airs à danser. Donc voilà. Et puis souvent, les musiciens présentent, ou les groupes, ou les chanteurs, ils disent que ça va être aussi comme danse.
Donc, ah oui, vraiment ?
Oui, très souvent.
D'accord. Et vous pratiquez la danse depuis quand ?
Alors, je ne sais pas exactement, j'étais toute petite.
C'est vrai?
Oui, et ma mère m'amenait dans les Fesnos, dans la Spézette, comme je suis de Spézette. Et donc, voilà, je ne me souviens pas avoir appris à danser la gavotte. Moi, pour moi, la gavotte, c'est une institution.
C'est quoi la gavotte?
Ah, la gavotte, quand même, la gavotte.
Mais je ne vous dis même pas d'où je suis. Non, je ne suis même pas d'ici.
En fait, la gavotte, c'est hyper, hyper connu, hyper important. C'est la danse principale à mon cœur. Voilà.
Ah, voilà. C'est vrai? Vous l'avez apprise avec...
Presque en marchant.
Non. Ça s'apprend en marchant? Ouais, presque.
Oui. Tout à fait. Ouais. En fait, il faut faire les pas et on compte les pas. La plupart du temps, c'est 8 ans. Et donc là, c'est 8 ans pour la gavotte que je connais. Et donc, ça se fait en comptant les pas, tout simplement. Et c'est très, très dynamique. C'est cardio.
On peut apprendre les danses bretonnes à partir de quel âge? Non, mais réellement? Vraiment tout petit?
Ah, écoutez, oui, il y a des petits qui commencent très jeunes. Je pense que 5-6 ans, c'est l'âge où ils démarrent. Justement, au cercle celtique de Spézette, il y a plusieurs catégories, des tout petits.
Vous en avez, vous, dans votre association, des jeunes danseurs?
Ah oui, il y a des jeunes d'ailleurs du cercle celtique de Spézette qui viennent apprendre d'autres danses d'un peu partout aussi et qui sont dans notre club.
Et comment vous faites pour intéresser les jeunes à la danse bretonne? C'est pas forcément, ça me paraît pas évident.
Non, c'est pas évident au premier abord. Bon, y a des jeunes qui sont déjà un petit peu dans le milieu de par leurs parents, grands-parents, donc ça va tout seul là, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Il y en a qui essayent aussi dans les écoles. Y a des intervenants, par exemple, avec l'association Kenler, la fédération, donc nous faisons partie de cette fédération. Nous adhérons depuis peu et donc ça permet diffuser. Et donc il y a des intervenants qui viennent dans les écoles pour diffuser justement et pour apprendre aux jeunes.
Et vous faites des ateliers, des choses comme ça dans les écoles, ça peut vous arriver ça?
Nous non, on laisse justement les responsables de Kenler, de l'association qui le font. Mais par contre, nous essayons d'ouvrir un maximum la culture bretonne et la danse bretonne. On fait des castelnos, donc c'est des petits mini festnos pendant nos cours. Et donc là, c'est ouvert à tous et donc les gens peuvent venir. On essaye de faire un maximum de choses pour ça.
Merci beaucoup Sylvie.
Je vous en prie.
Et puis sans transition, je vais donner la parole à Trevor Sten, et c'est le grand monsieur du jazz Crèze-Brèze. Bonjour Trevor.
Bonjour, bonjour David.
How are you?
Ah, je suis très bien. Désolé, je suis anglais, mais personne n'est parfait.
On pourrait presque faire l'émission en anglais parce que je suis un petit peu bilingue. Alors, je suis très très nul en breton, mais en anglais, je me débrouille un peu. Je suis désolé. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup.
Merci.
Kenavo Aréchal. Bon, est-ce que vous pouvez... Alors, l'association, c'est une association déjà qui a déjà quelques années. Ça va être, cette année, c'est les 20 ans.
20 ans. 20 ans, en effet. Je pense que l'association est à 21 ans et le festival à 20 ans. Oui.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association? Vous avez... comment ça se passe?
Oui, les origines étaient en 2003. Il y a un groupe local de jazz qui joue ici. Et j'étais une partie du groupe. Et on a joué tous les mois à l'auberge Talapont, juste à côté du pont à Châteauneuf. Et c'était une grande réussite. Tous les mois, 150 personnes, ambiance d'enfer. C'était fabuleux. Et en 2005, on a décidé de créer un festival autour du Talapont, mais un festival différent des autres festivals de jazz en France, parce que en France et aussi ailleurs en Europe, le jazz est assez bourgeois, assez élitiste, pas accessible et ennuyant. Mais notre...
Moi, j'aime bien.
Notre festival encourage le jazz accessible, le jazz dynamique et une ambiance très cool. On dit plutôt Woodstock que conservatoire. Et ça, c'est l'objet en 2005 et on a toujours le même objet aujourd'hui. 2005, on a 500 personnes, spectateurs. 2024, on a entre 5000 et 6000. Donc, ça marche.
Bah plutôt oui.
Oui.
Et alors vous avez, j'imagine, beaucoup de bénévoles pour pouvoir faire tout ça. Vous avez beaucoup d'adhérents.
Oui, ça c'est le plus, dans un sens, la chose la plus impressionnante du festival. On a besoin pour le festival de 200 bénévoles et on n'a pas besoin de faire une annonce. Et ça dit long, en effet, parce que tous les bénévoles reviennent tous les ans. C'est fabuleux. C'est une équipe de bénévoles extraordinaire et ils adorent le festival et nous adorons les bénévoles.
D'accord, donc et comment ça a évolué un petit peu le festival depuis sa création? Au début, vous étiez où?
À
quel endroit de la ville vous étiez?
Oui, j'étais dans le bar Auberge Talapont, qui est à cette époque juste à côté du pont. Et on a créé les scènes autour de ça au bord de l'Aune. Et on a maintenant 4 scènes. Malheureusement, l'auberge est fermée.
Ah, c'est dommage.
Très dommage. Mais ça, c'est fermé. Mais on a 4 scènes au côté de l'Aune avec les chapiteaux parce que quelquefois, il pleut en Bretagne, j'ai remarqué.
Ça peut arriver.
Oui.
C'est rare. Hein? Mais ça peut arriver.
Donc, on dépense une fortune pour les chapiteaux et tous les spectateurs et les artistes sont abris. C'est très bien.
Ah, d'accord. Donc, c'est pas dans un bâtiment permanent?
Oh, non. Ça, c'est une des atouts du festival. Les gens peuvent balader dans un coin qui est peut-être un des les plus plus beaux coins de la Bretagne. C'est vraiment super. Il y a la rivière là, il y a c'est extraordinaire.
Ça se situe juste à côté de la rivière, alors.
Oui, c'est vraiment bien. On a aussi la musique sur les péniches qui traversent le canal pendant le festival. Et c'est une ambiance absolument super. Et les gens viennent pour l'ambiance, en effet, plutôt que les grandes têtes d'affiche. On a les têtes d'affiche assez importantes.
Oui.
Mais maintenant, ils sont très, très chers. Et les gens aiment l'ambiance du festival, ça c'est clair. Les gens qui viennent ne sont pas les grands amateurs de jazz, surtout le jazz inaccessible, mais ils viennent au Fest Jazz et ils trouvent une ambiance familiale, une ambiance intergénérationnelle, une ambiance internationale, ça c'est important, et c'est fabuleux. Et aussi c'est un bon taille, parce qu'il y a les festivals ici, où on a besoin des jumelles pour voir les groupes. pas nécessaire à Châteauneuf, on n'a pas besoin de jumelles, on peut boire un coup avec les artistes après le concert.
C'est l'avantage, oui, c'est d'avoir des artistes accessibles.
Oui.
Ça, c'est bien.
Ah oui.
Est-ce que parmi toutes ces années où vous avez produit le festival, vous avez reçu des artistes qui n'étaient pas très connus puis qui sont devenus par la suite? Vous avez peut-être des exemples à nous donner?
Beaucoup, en effet. Ben Waters, par exemple, il est un pianiste anglais qui joue avec les Rolling Stones, en fait. Et il vient presque tous les deux ans parce que les gens adorent lui. Il y a aussi Marlo Mazurier, qui est un jeune trompettiste de Bretagne. Il habite pas loin d'ici. Il a joué dans le premier festival en 2005 quand il avait 13 ans. Absolument magnifique. Et maintenant, il a un étoile dans le monde de jazz de l'Europe. Et toujours, il vient au Fest Jazz. So, donc, oui, il y a des gens qui sont très importants maintenant, qui ont commencé avec nous. Un autre, c'est Andrea Motis, qui est en Espagne, de Barcelone. Et elle a fait son premier concert hors de l'Espagne, ici. C'est magnifique.
Quand vous faites le festival, enfin depuis que vous faites le festival, vous avez une idée du nombre d'artistes que vous avez reçus à peu près?
Combien d'artistes?
En tout, ouais.
Oh, c'est une trentaine par an, donc c'est 600.
Il y en a qui reviennent. Oui. Vous avez des habitués
si,
même.
Si ils sont bien reçus par le public, et presque tout est bien reçu. On peut inviter, oui. Cette année, 2025, on a Gunhild Carling. Par exemple, le samedi soir, elle est une grande star de jazz dans le monde. Elle est suédoise, mais elle habite en Californie. Et elle vient parce qu'elle adore le festival. Un autre exemple, c'est un street band de New Orleans, Nouvelle-Orléans, qui s'appelle Tuba Skinny. Et ils sont partout sur Internet. Ont les millions de spectateurs.
Vous pouvez expliquer ce que c'est que le street band?
Street band, c'est un groupe de jeunes qui jouent dans la rue et avec un chapeau.
Avec un chapeau?
Oui, mais ils sont bien. Hein.
Ah, ça, tu connais toi, Camille? Moi, j'ai jamais entendu parler. Oh, tu peux me dire le nom de la tête. Hein. Non, tu connais pas.
Tuba Skinny. Et nous avons des gens déjà qui ont réservé les billets, qui viennent de l'Écosse, d'Allemagne, de Pays-Bas, pour voir Tuba Skinny. Et Tuba Skinny, c'est la deuxième fois qu'ils ont joué avec nous. C'est eux qui ont demandé est-ce qu'ils peuvent jouer au Fest Jazz. C'est Tuba Skinny qui a fait l'appel. Et je suis très fier de ça. Je n'ai pas cherché Tuba Skinny, mais ils voudraient jouer ici parce qu'ils adorent l'ambiance.
Ouais. Alors, est-ce que le festival aura lieu en 2025? Et est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de la programmation? Elle est déjà faite, elle est établie ou pas?
Ah oui, c'est fait il y a un an. On doit faire le programme.
Ouais, dès que le festival est terminé, vous lancez directement.
Même avant. Oui, c'est nécessaire.
Alors, ce sera quand en 2025 le festival?
C'est quand? C'est le 24, 25, 26, 27 juillet.
D'accord.
Dernier week-end de juillet. C'est super. Tout le monde adore.
Et qu'est-ce que je voulais vous demander? Juste, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. Ah oui, vous faites autre chose aussi dans l'année. Vous ne faites pas, l'association ne fait pas que le festival, vous faites aussi.
C'est important, l'association fait plus de choses dehors du festival. On a un projet jazz à l'école. Et avec ça, il y a un groupe de jazz qui va dans les écoles, les lycées, les collèges, les écoles primaires, et présente l'histoire de jazz dans le contexte de l'histoire des États-Unis. So, donc, on commence avec esclavage, discrimination, ségrégation, la lutte pour le droit civique, tout illustré par les chansons et la musique. Et c'est super, une grande réussite. On fait une quinzaine d'interventions par an. Ici à Châteauneuf, bien sûr, on joue au Collège de Laune en février, mais aussi on fait Saint-Malo, Vannes, Brest, Rennes.
Ah mais vous allez loin.
Oui, c'est très populaire. Oui, merci. C'est bon. Et on va en faire plus cette année avec, par exemple, la danse. Et c'est pas que le jazz. Oui.
Ah, vous allez OK, un petit peu dans la danse aussi. Ouais. Bon, merci beaucoup.
De rien.
Trevor, on va s'écouter un petit peu de musique avant de recevoir notre dernière invitée. Restez avec nous sur le 100.4 FM.
Et alors justement, on parlait de Tuba Skinny tout à l'heure, le fameux street band. Et donc, on va se mettre un de leurs morceaux.
but you'll always hear me sing this song, 'cause you know your mom's crazy about you.
C'est la dernière tranche du LEM en direct depuis le bar des sports de Châteauneuf-du-Fou et on reçoit Stéphane Decourchel de l'association Uno Tango. Bonjour Stéphane.
Bonjour David.
Comment ça va?
Ben super.
Bon, c'est quoi Uno Tango?
Alors Uno Tango, c'est une association de tango argentin.
Ouais.
On a créé avec ma femme il y a un peu plus d'un an. On s'est installé à Châteauneuf-du-Fou, là où ma femme travaille, elle est ostéopathe. Et nous, on est de Saint-Ouen, juste à côté. Et voilà, alors nous on est passionnés par le tango argentin depuis déjà 10-15 ans et on voulait partager notre passion sur ce territoire là où on habite depuis maintenant 4 ans. Voilà, alors pour l'historique, moi je suis de Pont-Croix, Clémence elle est de Questembert. On est parti il y a longtemps et on revient s'installer ici, c'est un projet de vie qu'on avait depuis longtemps et voilà, et donc on revient avec du tango.
Avec du tango, ouais. Voilà. Alors c'est quoi la différence entre un tango classique et puis un tango argentin?
Alors en fait il y a eu beaucoup d'échanges entre l'Europe et l'Argentine, d'échanges culturels, hein, donc en termes d'architecture, en termes de musique, de culture, est né au début du siècle dernier une musique spéciale du tango argentin à Buenos Aires, dans le Rio de la Plata, qui est aussi un petit peu en Uruguay, en Argentine. Et là, tout de suite, c'était un des pays très riches à l'époque, l'Argentine. Et bon, il y a eu des échanges avec Paris, etc. Et est né comme ça, pour aller vite, hein, un style de musique. Il a été importé un petit peu en Europe. Et les Européens l'ont un peu, on va dire, un peu comme des colons, quoi.
Ils se l'ont réapproprié, quoi.
Oui, ils l'ont réinventé un petit peu. Ouais. Et notamment en rajoutant, eux, des choses, de la batterie, des éléments rythmiques. Voilà, pour le mettre dans le balmusette qui se développait dans les années 30. Et dans tout ce qui était fête autour de la Seine à Paris, les années folles déjà. Donc il y a eu comme ça des mélanges de cultures autour du tango. Et le tango argentin, c'est quand même resté spécifique. Et il y a eu un peu quelque chose de différent qu'on retrouve dans les tangos de salon, quoi, en fait, hein, avec le passo doble, la valse, qui n'est pas une valse argentine d'ailleurs, qui est une valse viennoise, le tango, etc. Plein de styles de musique, et là que ça a pris un petit peu son envol et c'est un petit peu autonome. Mais ce n'est pas du tout le tango argentin. Le tango argentin, il y a trois types de danse dans le tango argentin. Il y a le tango, avec une musique assez reconnaissable, puisque le temps fort, c'est le 1, les 3, tin, 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 hein, où on danse vraiment sur des... sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, quelque chose assez simple. Et ça, c'est le tango argentin. Après, il y a la valse, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, qui est très spéciale, qui n'a rien à voir avec la valse qu'on connaît ici, que... qui a été utilisé évidemment dans la chanson française, etc. Et la milonga qui est plus une, enfin voilà, là maintenant je peux pas tout vous expliquer avec la parole, là il faudrait le corps pour pour vous expliquer. Voilà.
Il y a des concours d'ailleurs de milonga, non?
Tout à fait. Alors dans le tango argentin, après il y a plein de sous-dossiers, on va dire.
Ouais, des sous-genres.
Voilà, nous on fait vraiment de la balle du tango de balle. On danse dans le bal, c'est convivial, les gens viennent pour s'amuser, comme on va en boîte de nuit, sauf qu'on danse le tango argentin.
D'accord.
Après, il y a les tangos de scène. Bon, là, il y a un peu comme du tango acrobatique, quoi. Et là, il y a des concours, il y a des prix, etc., etc. Ça, c'est encore un autre monde.
C'est encore un autre truc.
Bon, après, il y a des communications entre les deux, hein, bien sûr, hein, parce que bon, les maestros qui dansent du tango de concours, ils viennent aussi dans les balles, ils viennent enseigner les gens et transmettre un petit peu tout ce qu'ils ont. Mais on va dire que nous, on s'intéresse vraiment au tango de salon, à la connexion entre deux danseurs qui dansent au sein d'un bal, quoi.
C'est quoi votre première rencontre avec le tango argentin?
Alors moi, en fait, quand j'étais petit, je faisais de la danse classique. Et ça a été, la pression sociale était tellement forte que j'ai dû arrêter.
Ah bon?
Vous avez vu Billy Elliot?
Pourtant, ça me dit rien. Ouais.
Bon, Billy Elliot, c'est vraiment un conte de fées, quoi.
Okay.
Parce que si on n'a pas un soutien, donc moi j'ai arrêté. Après j'ai fait du foot, quoi.
Hein? Ah ouais.
Bah ouais.
Ouais, moi je préfère la danse, du coup.
Voilà. Et j'ai fait une carrière de cirque. Donc voilà, où j'ai fait beaucoup de cirque. J'ai travaillé avec des chorégraphes. Bon, j'étais quand même dans le monde du mouvement, quoi, toujours. Acrobatie, jonglage, mime, la danse aussi, mais un petit peu. Mais finalement, je cherchais, c'est à 40 ans que j'ai découvert la danse, le tango argentin plutôt. Et c'est là que j'ai compris finalement que c'est ce que je cherchais depuis le début, quoi. C'est ce que j'avais arrêté quand j'étais petit, c'est danser. Et le tango argentin, ce qu'il y a vraiment d'extraordinaire dedans, c'est que c'est une danse à deux. C'est une danse de couple. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'individuel où on danse dans son coin. J'adore ça. Hein. J'adore l'électro. J'adore. Ouais. Bon, je suis vraiment quelqu'un qui danse. Hein. J'adore le hip-hop. J'ai toujours dansé toute ma vie. Hein. Mais là, c'est vraiment une connexion à deux et sur un répertoire. Donc le tango argentin, j'ai commencé par là, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc les gens, ils se rendent pas vraiment compte de ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour la musique, c'est comme si on parlait du Mont-Saint-Michel, de Saint-Cirque-la-Popie, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Là, on est dans le patrimoine mondial de la gastronomie française. On n'est pas au McDonald's, vous voyez, en termes de musique, là. Là, on est vraiment chez un grand chef qui fait de la musique. Voilà. Okay. Ben là, c'est pareil. Le tango argentin, c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Donc, c'est extraordinaire. Il y a un moment, en 1940, donc vraiment, c'est... Le tango argentin est toujours vivant, il a 100 ans d'histoire, il y a plein d'orchestres actuels. Mais on va dire qu'à Buenos Aires, il y a un moment dans les années 40, il y avait 400 orchestres qui jouaient tous les soirs. Et 400 orchestres dans la ville, quoi. Ouais. Et tout le monde dansait.
Et c'est une danse qui est facile à apprendre?
Alors, c'est une danse qui demande d'abord d'être connecté à soi-même. C'est-à-dire que pour danser, la danse, c'est quoi? C'est de le mouvement. C'est se mettre en mouvement. Donc pour se mettre en mouvement, il faut quand même, vous savez, si je vous donne un crayon, je vous dis de peindre, et que vous peignez dans tous les sens, sur les murs, sur les plafonds, etc., ça n'a pas vraiment de sens. En revanche, si je vous donne une feuille, une petite A4, et je dis c'est là qu'il faut peindre, donc là il y a un cadre qui est très fort, et là vous pouvez créer, parce que vous avez quelque part une contrainte qui vous permet d'être libre. Si votre liberté part dans tous les sens, dans la rue, là, sur les murs, en fait, il n'y a plus vraiment de liberté. Donc, dans le tango argentin, il y a une contrainte qui est très très forte. Bon, là, on va aller vite, mais du coup, c'est là où en fait le génie peut s'exprimer. C'est vraiment génial. Hein.
Ça a essayé.
Bah oui, celui qui. Voilà, après il y a eu dans les années 70 Piazzolla qui a tout voilà, mais c'est pour dire oui, ça a essayé et voilà, et c'est une rencontre avec l'autre.
Bah pour ça, il faudra prendre rendez-vous avec Uno Tango à Châteauneuf du Fou. Merci beaucoup Stéphane d'être passé nous voir sur le plateau et rendez-vous lundi avec Véro. Salut.